Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver nos invités dans quelques instants pour parler du Bénin ciblé par des attaques terroristes, nous vous proposons cette rubrique décryptage. À tout de suite.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Madame Andora Timamanga, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire générale de la Croix-Rouge malgache à Antananarivo, le cyclone Batirai qui a récemment frappé Madagascar a fait 120 morts et d'importants dégâts matériels. Une semaine après, pouvez-vous nous décrire quelle est la situation sur l'île?
Comme vous l'avez dit, il y a 120 décès et il y a presque des centaines, des milliers de personnes qui sont déplacées et des milliers de cases d'habitation qui ont été détruites, malheureusement. Je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais les dégâts sont vraiment lourds. 90% de la zone où l'œil du cyclone est rentré est complètement détruite.
Vous parlez de la ville côtière de Manandjari, je suppose.
Exactement, Manandjari, Nusfar, Kiafouipé, Nufanatina, Farafangana, Fangaindran. Mais le plus énorme dégât se trouve à Manandjari, là où le cyclone a fait beaucoup d'impact. L'œil du cyclone est rentré là-bas.
Près de 125 000 personnes ont été sinistrées. Dans quelles conditions vivent-elles?
La situation des populations affectées dans ces zones sont actuellement après le passage de Batirai et après que l'eau est descendue un peu plus bas. Ils commencent à retourner chez eux tout au début avec une action d'évacuation préventive. Ils étaient hébergés dans certains bâtiments administratifs. Mais après, ces bâtiments administratifs ont été également affectés. Donc, ils commencent à retourner vers eux petit à petit, à commencer la reconstruction selon leurs moyens et à leur façon. Par contre, de l'autre côté aussi, en parallèle, il y a des actions qui ont été déjà entreprises par les partenaires humanitaires. Pour la Croix-Rouge Malakas, on a, par exemple, déployé nos volontaires qui les accompagnent dans le cadre d'un appui au psychosocial d'abord et également petit à petit un appui à la reconstruction.
Quelle est la nature de l'appui que vous apportez à ces sinistrés qui ont décidé de rentrer chez eux?
On les accompagne dans le cadre de reconstruction en abri temporaire et on les accompagne également ultérieurement dans la reconstruction vers une reconstruction plus durable. Je voudrais mentionner d'abord qu'en ce moment, à cause du dégât du cyclone, les routes sont encore coupées. Donc, le vrai défi, c'est l'acheminement des matériels de construction vers ces personnes. Mais cette semaine, avec la collaboration du gouvernement, tous les acteurs humanitaires, y compris la Croix-Rouge Malakas, a pu trouver une solution par rapport à l'acheminement des matériels. Et on va acheminer prochainement, d'ici la fin de la semaine, des matériaux de construction comme des kit shelters, comme on appelle ça, où il y a des bâches, des clous, des bois.
Si on a bien compris, l'urgence, c'est trouver un abri temporaire à ces sinistrés. Mais quels sont les autres besoins prioritaires
en santé,
ces sinistrés?
Tous les secteurs sont touchés en santé, en nourriture, en éducation. Et on est également en train d'apporter également l'assistance en termes de cash. Il y a des actions qui se font à petite échelle à travers les actions de solidarité, les partenaires locaux sur terrain appuyés pour nos volontaires dans la cuisson des repas chauds, par exemple, soit au sein des sœurs, soit au sein des pères, soit au sein des églises. Donc, ces partenaires humanitaires qui sont déjà présents au niveau local apportent les appuis nécessaires en termes d'alimentation et viennent après. Nous, la Croix-Rouge, on va apporter le cash, les matériels, l'équipe d'hygiène, l'équipe wash, à l'équipe cuisine, afin que ces personnes en situation de détresse puissent se relever rapidement.
Et dans la zone de Manandjari, l'hôpital a été détruit. Est-ce que la reconstruction a commencé?
La situation actuelle, en attendant la reconstruction au sein des bâtiments administratifs et des centres de santé, les patients sont évacués dans des cliniques privées et dans des centres de santé qui ne sont pas totalement détruits. et en même temps, la prise en charge à travers des cliniques mobiles se font à travers le ministère de la Santé, en appui avec les volontaires de la Croix-Rouge qui sont sur place dans le cadre de caravanes sanitaires qui est organisée par le ministère de la Santé, auquel le ministère de la Santé, ils font des consultations gratuites. Et en plus, la reconstruction ne devrait pas se faire du jour au lendemain du passage du cyclone. Il y a d'abord la phase d'urgence sur laquelle on doit apporter les secours d'urgence. Même si on commence la reconstruction, la route est coupée. Tous les matériaux qui devraient assumer la reconstruction viennent des autres communes, des autres villes à proximité de Mananzar pour amener les matériaux de construction vers la ville de Mananzar. Seuls les camions de 5 tonnes pourraient passer, alors que si on veut reconstruire plusieurs bâtiments, il faut des acheminements des poids lourds au-delà de 5 tonnes.
Dans certaines localités où le cyclone Batsirai est passé, des rizières entières ont été dévastées par les inondations. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un risque réel de faim?
Probablement, oui. C'est pour ça aussi que les reconstructions ne peuvent pas encore commencer dès maintenant, parce que actuellement, en même temps, des évaluations multisectorielles approfondies sont encore en cours. Et on va essayer d'ici le mois de mars, qui commence le calendrier de certaines cultures agricoles, on va pouvoir faire la transition de dotation en semences ou dotation en kit agricole pour que les agriculteurs puissent commencer une nouvelle plantation. Il y a probablement une situation d'insécurité alimentaire qui va sévir dans la zone.
Madame Ando Ratimamanga, merci beaucoup.
Merci à vous.
Secrétaire générale de la Croix-Rouge malgache à Antananarivo.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Merci d'être avec nous dans le grand rendez-vous. Deux attaques en l'espace de 3 mois. Le Bénin va-t-il rejoindre la liste des pays régulièrement ciblés par des groupes extrémistes violents? Les autorités sont-elles suffisamment préparées et armées pour éviter au pays de vivre le pire? Nous en débattons ce soir avec nos trois invités. Julien Oussou, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur régional au West African Network for Peace Building pour la consolidation de la paix. Vous êtes en ligne avec nous de Cotonou. Et c'est également de Cotonou que nous avons notre deuxième invité, Expedi Ologou. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes politologue béninois et spécialiste en sécurité et défense. Et avec nous en studio, Régis Oumpe. Bonsoir.
Bonsoir, Yannick.
Analyste politique, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Vous intervenez également à l'École nationale supérieure des armées de Porto-Novo, au Bénin. Merci à tous les trois d'être avec nous. Début décembre, il y a eu cette attaque d'une position de l'armée béninoise dans la Takora, une attaque qui a coûté la vie à 2 soldats et un assaillant a également été tué. Je vais commencer avec vous, Monsieur Ologou, qui êtes au Bénin. Est-ce que vous avez été surpris ou non par la seconde attaque enregistrée la semaine dernière et qui a fait 9 morts?
Non, pas du tout surpris. Propos de ces attaques terroristes au Bénin et même dans la sous-région, la certitude, c'est la permanence de ces attaques. L'incertitude, c'est l'heure et la date, le lieu ou le jour. C'est seulement ça qui reste comme étant un élément de surprise. Sinon, je crois que de plus en plus, la plupart des experts conviennent sur le fait que le Bénin, comme les autres États, doivent maintenant vivre avec le phénomène terroriste. Et donc, presque personne dans le monde des espèces n'a été surpris de ces dernières attaques.
Et vous, Monsieur Oussou, il y a eu des alertes, des signaux qui ont été donnés, des rapports qui ont été faits avant ces attaques pour prévenir sur la menace sécuritaire au Bénin?
Oui, effectivement. Et puis, comme l'a dit Espedi, il y a eu assez d'éléments, il y a eu assez de recherches, il y a eu assez de documents de politique appelés policy brief. Il y a eu même assez d'interactions avec les forces de défense de sécurité qui, dans plusieurs occasions, ont reconnu qu'il y avait de telles présences et que, en tant que force de défense, elles étaient en train de travailler à la question. elles avaient des éléments qui leur permettaient de suivre. Et donc, une dernière recherche, je pense, qui a été publiée en collaboration avec Elva et le département d'alerte précoce de la CEDEAO en juin dernier, a même révélé le fait que les groupes s'intensifiaient en termes, disons, d'effectifs et de mouvements. Donc, disons qu'on s'était tous convaincus du fait qu'il y avait des présences sur le terrain, mais on cherchait à comprendre quand est-ce que et qu'est-ce qui allait déclencher, disons, les attaques sur le pays. Et beaucoup d'analyses prenaient la chose comme une décision de leur part de ne pas encore attaquer le pays parce que peut-être ils avaient d'autres analyses ou d'autres intérêts à préserver en attaquant par le pays.
Merci beaucoup. Alors, M. Oumpe, on a entendu M. Ologu dit tout à l'heure que le Bénin était préparé et pour lui, il va falloir même vivre peut-être avec cette réalité que sont les attaques terroristes. Monsieur Oussou enchaîne en disant que les autorités avaient reconnu qu'il y avait cette menace sécuritaire et avaient promis qu'elles s'occupaient de cela et qu'elles travaillaient à les prévenir. Mais à un moment aussi, il y a eu comme une sorte de déni de la part des autorités. Je parlais de ces rapports qui ont été faits d'un think tank néerlandais. Il y a aussi des alertes de la part des renseignements français. Oui. Est-ce que de votre point de vue, le gouvernement béninois a suffisamment pris en compte ces éléments et s'est préparé à anticiper?
Il faut dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu une première alerte, un véritable coup de semonce en mai 2019 où il y a eu effectivement... le pacte de la Pendjari qui a vécu pour le Bénin et pour le grand public ce premier drame terroriste avec la mort d'un garde forestier Fiak Bouedji et beaucoup plus tard deux forces spéciales françaises qui sont venues en intervention et qui sont décédées. Mais au-delà de ça, effectivement, de cette première alerte, il y a un contexte aussi. Il y a le contexte, je dirais, régional, voire sous-régional, qui voit les pays frontaliers du Bénin subir le terrorisme et quelque part, effectivement, comme l'ont dit avec justesse mes prédécesseurs, le Bénin, malheureusement, ne pouvait pas s'attendre à basculer dans la cartographie, donc, du terrorisme. Quoique, bien sûr, pendant longtemps, le Bénin est considéré comme un îlot de stabilité. Donc, effectivement, à un moment ou un autre, assez fatalement, le Bénin allait endurer, allait subir, effectivement, les foudres. Donc,
c'est-à-dire au-delà de ces alertes qui
exactement,
ont été
des groupes armés terroristes.
Il y avait aussi la position du Bénin
exactement.
Dans la sous-région, étant un pays frontalier. À ses frontières, le Burkina, par exemple.
Et le Burkina, le Niger. Et je pense, effectivement, au vu des rapports, au vu des documents stratégiques, et vous avez rappelé dans votre avant-propos, l'alerte qui a été lancée par Bertrand Hémier, qui est l'un des grands dirigeants des RG français, effectivement, qui avait dit, effectivement,
des
renseignements généraux, que la menace terroriste sahélienne, malheureusement, avait toutes les chances de s'élargir vers les pays côtiers.
Non, on est d'accord oui. Qu'il y avait des alertes, il y avait des signaux. Oui. Mais est-ce que le gouvernement béninois en a-t-il suffisamment tenu compte?
J'ai l'impression que s'il y a une prise en charge ou une prise en compte du problème, ça a été, donc, moi, de mon point de vue, assez diffus ou pas assez communiqué. Donc, je pense effectivement, et j'ose croire effectivement que les forces armées, le haut commandement militaire et le gouvernement béninois, effectivement, étaient vraiment en alerte vive, mais toujours est-il que, malheureusement, le drame s'est déroulé et aujourd'hui, effectivement, les questionnements qui sont légitimes, c'est de savoir que faisait le gouvernement béninois. Est-ce que le gouvernement béninois avait les sources, avait les ressources, évidemment, pour vaincre ce qui s'est passé tout récemment? Et puis, il faut le dire, est-ce que le dernier drame, c'est le drame le plus meurtrier et malheureusement, le Bénin vient de basculer dans cette cartographie et la question de l'alerte, elle est extrêmement importante.
Monsieur Ologu, est-ce que, de votre point de vue, le gouvernement béninois a-t-il bien anticipé ces attaques terroristes? Et si oui, quels sont les actes ou les mesures qui ont été mises en place après la première attaque?
Pour être honnête, il est difficile, en ce genre de situation, de dire qu'un gouvernement d'un État n'a pas assez fait ou n'a rien fait du tout. En fait, tous les États, quelle que soit leur puissance, sont toujours dans un entre-deux d'avoir pas du tout fait ou d'avoir peu fait. Le gouvernement du Bénin est dans cette situation. La question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qu'un État entre guillemets, aussi petit que le Bénin, avec les ressources que l'on lui connaît, mais avec des voisins aussi vastes que les États sahéliens, eux-mêmes embourbés dans cette spirale terroriste, qu'est-ce qu'un État comme le Bénin, voisin du Nigeria, aussi grand avec toutes les menaces terroristes de ce côté-là, et la porosité des frontières, que peut faire un petit État dans une situation comme celle-là où tous les États environnants...
Pardon, Monsieur Legault, là, vous posez le problème peut-être de l'insuffisance des moyens mis en place. Mais moi, je parle de l'impression, du sentiment de déni. Parce que, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'à un moment, les autorités béninoises ont même remis en cause des rapports de certaines institutions qui signalaient déjà qu'il y a une réelle menace sécuritaire.
Et c'est justement ce que je voudrais tenter de problématiser en posant les questions de cette façon-là. Lorsqu'un gouvernement d'un État comme celui du Bénin n'a pas les, ne peut pas avoir les ressources pour de façon militaire faire face à ce type de menace et qu'il y a des signes déjà d'attaque, de kidnapping des deux Français, de la mort d'un guide touristique et que les organisations ou les acteurs internationaux viennent à dire ça, un gouvernement comme celui-là, d'un État aussi petit, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat d'abord sur une sorte de communication stratégique pour ne pas essayer d'apeurer. Donc moi, je pense que le pays...
Communication stratégique, c'est renier le contenu du rapport et le minimiser, c'est dire que voilà, le rapport n'est pas conforme à la réalité.
J'analyse ça comme une sorte de stratégie, parce qu'encore une fois, je regarde... la capacité des États de la sous-région à tout le temps accepter qu'ils sont déjà... Parce qu'accepter ça, c'est déjà une sorte de faiblesse vis-à-vis de la menace. Ça ne veut pas dire qu'un État comme celui-là ne prend pas des dispositions dans le secret des choses. Parce que c'est une question aussi stratégique pour qu'un gouvernement vienne dire « Oui, j'ai fait ci » ou « Non, je n'ai pas fait ça ». Mon analyse, c'est qu'il y a probablement des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui n'ont pas été assez bien faites et on a dû s'en rendre compte. Par exemple, le degré on dit d'alerte, en tout cas officiel, est resté un peu ni rigoureux ni sérieux en guillemets. Et donc, de ce point de vue, on a senti comme une sorte d'impréparation, ne serait-ce que du point de vue de la préparation stratégique sur le terrain, puisque quand vous regardez les périodes dans lesquelles les actes ont été commis, ce sont des périodes dans lesquelles tout le monde était convaincu que autour du Bénin, il y avait des difficultés. Donc je pense que c'est une stratégie qui peut ne pas avoir payé comme il faut.
Merci.
Ensuite, et c'est là que je voudrais accoster, si vous le permettez, c'est que si vous regardez le rapport de ce gouvernement à la parole publique, c'est un rapport tout à fait bizarre. C'est un gouvernement qui ne communique presque sur rien et de toutes les façons, il ne communique que sur les choses qui l'arrangent. Donc, à l'évidence, vous n'attendrez pas d'un gouvernement comme celui de M. Talon de venir communiquer officiellement sur ce qui ne l'arrange pas ou ce qui pourrait le mettre en difficulté ou en fébrilité. Et c'est ce qui, pour moi, explique cette stratégie de communication.
Merci, M. Lougou. On marque une pause.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le Bénin cible des attaques terroristes. A-t-il les moyens d'éviter le pire? Nous en parlons ce soir avec nos experts en sécurité. Expédie Ologou, politologue béninois, spécialiste en sécurité et défense. Régis Pompé, analyste politique et directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Il intervient également à l'École nationale supérieure des armées de Porto-Novo au Bénin. Et Julien Oussou, coordonnateur général au West Africa Network for Peace Building pour la consolidation de la paix. Et on me signale que vous êtes en ligne de Banjul, Monsieur Oussou, que nous allons entendre maintenant. Est-ce que de votre point de vue, le gouvernement béninois, au regard des éléments contenus dans les rapports que j'ai mentionnés ou que nous avons mentionnés dans la première partie, est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'il a pris des dispositions suffisantes pour anticiper ces attaques, Monsieur Oussou?
Merci beaucoup. Et effectivement, je suis en ligne depuis Banjul et c'est un coordonnateur régional à Wanep. Alors, disons que je partage parfaitement l'avis et les propos de SPD sur la question et je peux utiliser un indicateur pour montrer que Il y a eu quelques hésitations peut-être ou quelques difficultés dès le départ parce que cette question dont on parle, c'est depuis 2014-2013 que des rapports ont commencé à relever des mouvements et des situations qui étaient à risque pour le pays. Et je me rappelle que l'une des recommandations de ce premier rapport était de mettre en place, une structure qui devait être chargée de coordonner la prévention et la riposte contre l'extrémisme violent dans le pays. Mais cela a pris un temps fou avant que, autour de 2017, il y ait une commission qui a été installée avec des membres, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Une commission pour s'occuper de la question, mais qui n'a pas du tout, je veux dire, fonctionné. Il y a eu un secrétariat de cette commission qui a fonctionné quand un cas. Il y a eu un général, en son temps, je pense, un général divisionnaire, qui a été responsable de ce secrétariat. Bref, il y a eu assez d'éléments sur lesquels, à un moment donné, les organisations de la société civile qui s'occupaient de la question ont tout mis sous le volet de la grande miette qui avait des difficultés à communiquer sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle pense faire, ne serait-ce que pour assurer la mobilisation des autres acteurs qui devraient travailler avec elle sur le terrain. Donc, il faut dire que, de toutes les façons, s'il y a eu des initiatives qui ont été prises, s'il y a eu des mesures qui ont été prises, peut-être qu'elles n'ont pas été à la hauteur des risques qu'on courait, n'ont pas permis, disons, d'embarquer tous les acteurs qu'il faut pour assurer vraiment une certaine... Parce que, de mon point de vue, et au regard de comment les choses se sont passées dès l'attaque que nous avons eue courant décembre, pour reprendre avec, il y a eu comme un réveil, il y a eu comme une certaine remobilisation, il y a eu comme une certaine entre-gris, je ne dirais pas précipitation, mais on sent quand même qu'on s'est rendu compte que, et là, ça y est, c'est donc, avec nous, c'est chez nous, et il faut maintenant commencer par agir. Alors qu'on aurait pu, peut-être, avec une certaine mobilisation, prendre plus d'avance sur la situation.
Peu de réactivité donc de la part du gouvernement face à ces alertes, mais les choses semblent changer, signale Monsieur Oussou. Je ne vais pas vous poser la même question hein, sur la réactivité ou non du gouvernement. Dans l'attaque de décembre, par exemple, qui a visé le poste de l'armée, ce poste est situé près de Porga. On parle d'une petite ville hein, du département de l'Atakora, non loin de la frontière avec le Burkina Faso et en bordure du parc de la Pendjari. Et là encore, on parle d'une attaque du parc W.
Oui.
Et pourtant, d'autres informations dont nous disposons indiquent que ce parc était quasiment laissé à l'abandon, était négligé, ce qui a pu peut-être faire en sorte que ce parc devienne un repère de djihadistes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu des manquements, sachant que les parcs sont des zones à risque? Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que ces parcs ne se transforment justement en lieu d'accueil de ces groupes terroristes éventuellement?
Désormais, effectivement, les parcs naturels et les parcs forestiers sont devenus, si vous voulez, des repères à la fois de repli et de refuge des terroristes. On peut supposer qu'effectivement, les djihadistes qui viennent donc des pays frontaliers du Bénin viennent prendre position et la question donc de la sécurisation de ces parcs se pose. Je sais qu'au Bénin, il y a une agence, l'agence béninoise, donc qui est en charge donc de la gestion intégrée des parcs, a pour capacité, enfin je veux le croire, a la capacité donc non seulement de régler, d'administrer et de protéger avec le soutien donc des forces armées du pays ces parcs naturels. Moi, je serais bien en peine de vous dire et de vous dire ici quel est aujourd'hui l'état ou les indicateurs qui font qu'effectivement on peut dire que ces parcs depuis quelques années, depuis quelques temps justement, ont su être protégés. Toujours est-il que la question de l'anticipation et de l'alerte précoce se pose toujours. Parce que clairement aujourd'hui, pour rentrer au Bénin, surtout par ces régions, c'est d'abord à partir des parcs. Et donc nos parcs aujourd'hui qui, par définition, auraient pu être donc des vecteurs de l'économie béninoise, aujourd'hui sont devenus plutôt des facteurs d'insécurité. Et donc se pose aujourd'hui la question de leur protection, et pas de leur protection totalement intégrée, hein, donc justement en alliant à la fois les forces armées et tous ceux qui y travaillent, que ce soit des techniciens, des administrateurs, et aussi propos qui a été très intéressant, la parole publique. Il faut justement que le gouvernement, il faut que la volonté politique, effectivement, puisse être assez limpide, assez transparente. Je sais qu'effectivement que dans ces domaines, on ne dit pas tout parce que c'est assez stratégique. Il y a des opérations qui sont certainement secrètes, qui sont discrètes, voire secrètes. Mais toujours est-il que la question de la protection, de la sécurisation des parcs aujourd'hui, elle est très évidente.
Parce c'est devenu indispensable.
C'est devenu indispensable parce qu'aujourd'hui, les parcs au Bénin, et parcs au Bénin d'ailleurs, dans les nord donc de tous ces pays côtiers, sont devenus, si vous voulez, l'endroit, le biotope où les terroristes qui fuient le Sahel ou qui sont justement en train de s'élargir vers le Sahel, ils trouvent refuge. Donc aujourd'hui, malheureusement, le Bénin offre, le nord du Bénin et ces parcs aujourd'hui offrent, si vous voulez, un abri. Et ces abris ne doivent pas aujourd'hui subsister. Sinon, le risque, c'est que nous ayons des implantations durables, que nous ayons effectivement des terroristes qui viennent s'y loger. Et l'objectif de ces terroristes, on le sait très bien, c'est d'élargir, c'est d'étendre le djihadistan, donc qui quitte le Sahel jusqu'au nord des pays côtiers, malheureusement.
Occuper le plus de terrain que possible. Oui. D'accord. On va amorcer tout à l'heure, hein, dans la dernière partie, on va donner quelques pistes peut-être pour lutter contre ces groupes terroristes. Mais je voulais qu'on dise aussi un mot avec vous, M. Lougou, sur ce que certains experts nous ont dit également, c'est qu'il y a eu des leaders locaux qui ont alerté les autorités sur la présence dans leur localité, parfois de nouveaux visages, des personnes qui distribuent de l'argent aux personnes vulnérables dans les villages. Et il y a eu des appels lancés aux autorités, mais aussi sur l'absence de l'État dans certaines régions du Bénin. Est-ce que vous pensez que cela a pu aussi contribuer à l'expansion ou à la présence des groupes djihadistes, M. Ologou?
Bien sûr. Il y a des ports ou des poches de la société qui ont été abandonnés. Des ports physiques, des espaces physiques, géographiques, qui ont souvent été abandonnés. Des espaces de non-droit ou de loi, que de loi mais pas de droit. Et puis effectivement des poches sociales faites de gens assez vulnérables qui ont été souvent abandonnés aux mains de personnes au profil relativement douteux. Et ce type d'information, on l'a entendu se répéter depuis un moment en provenance des acteurs au niveau local. Et donc, la question se pose toujours de savoir est-ce que l'État est en même de mieux prendre en charge ces poches abandonnées. Quelles sont les nouvelles politiques publiques locales que l'on pourrait mettre en place pour éviter, par exemple, que les citoyens dans ces zones se laissent vite aller aux sirènes de l'argent? Parce que quand ils ont des problèmes de survivance, ils ont parfois des gens qui répondent à ces problèmes de survivance de façon pratique.
Et la tentation de se faire enrôler est grande.
Et d'ailleurs, au CIAF que je dirige, le think tank béninois que je dirige, nous préparons actuellement un papier sur cette situation où nous disons que les pauvres dans ces zones frontalières avec le Burkina Faso sont riches de leur espérance perdue, sont riches de leur pauvreté, sont riches de leur insouciance qu'elles mettent à la disposition maintenant des entrepreneurs terroristes pour les enrichir autrement dans la production de leurs actes. Donc, si on veut observer, on va dire, de nouvelles manières de faire dans ces zones, il faut davantage enrichir les pauvres de façon matérielle et financière et que l'État les prenne un peu plus en charge. Merci. Afin qu'ils ne deviennent pas les bras armés et faciles de ces terroristes. Et
rassurez-vous, dans la dernière partie, on parlera des solutions, je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, M. Oussou, à la question de comment en est-on arrivé là, je pense qu'on a fait un état de lieu, on a évalué les facteurs qui ont pu conduire le pays à ces attaques terroristes. Alors, est-ce que cela veut dire, malgré tout, qu'il faut se préparer à voir la situation sécuritaire se dégrader progressivement au Bénin?
J'ai du mal à répondre à cette question, mais je sais que si on ne tire pas le leçon, disons, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans les pays d'où nous voyons que cette menace nous vient, si on ne prend pas les dispositions pour vraiment mieux s'investir au niveau, disons, de ces PAC que nous avons, parce que si vous regardez un peu la cartographie, la géolocalisation de tout ce que nous sommes en train d'avoir maintenant, si vous vous posez la question à savoir pourquoi dans la même période de décembre où nous avons eu une attaque qui a relancé les choses, le Togo a eu la même attaque et que jusque-là, il n'y a rien eu du côté du Togo, quand vous cherchez un certain nombre de choses à comparer, vous allez vous rendre compte que s'il y a quelque chose que nous avons, parmi les choses que nous avons que le Togo n'a pas, c'est ce parc-là, la Pangari, W et autres. Et donc, si on ne se concentre pas dans comment on gère au niveau de ce parc-là, si on ne se concentre pas nous-mêmes à faire beaucoup plus de renseignements, et je sais que sur ce volet-là, pour des informations que nous avons, il y a quelques difficultés au niveau de nos forces, pour avoir du renseignement, pour permettre à ce que l'on puisse vraiment être à la hauteur de l'effectif des groupes qui circulent dans cette zone, parce que quand on regarde les timings dans les attaques, quand on regarde les distances qui séparent les attaques, on peut se demander si c'est un seul groupe qui opère. Et quand même on se rend compte que...
D'autant plus qu'il n'y a même pas de revendication pour le moment.
Voilà, de revendication, ça peut, disons, aller vers la thèse que peut-être c'est des braconniers, mais peut-être c'est plusieurs groupes qui opèrent de façon coordonnée. Bref, si on ne prend pas la mesure de la situation, si on ne se donne pas aussi les moyens d'impliquer tous les acteurs qu'il faut pour cette lutte-là, et qu'on pense que, comme l'a fait les autres pays, et ça a été une partie de leur erreur, que la riposte sera fondamentalement, disons, sécuritaire, militaire et forces armées, on pourrait être amené à vivre, disons, beaucoup plus d'entrées comme ça. Parce que si vous regardez le nombre d'attaques, il y a deux éléments qu'ils utilisent, mais je veux dire deux moyens. Il y a les attaques de nos forces de défense et de sécurité, donc...
Et les engins explosifs aussi.
Et les engins explosifs qui viennent de plus en plus, on en a déjà eu quand. Donc si vous voyez, ça peut évoluer. On connaît leurs moyens d'action et leurs cibles. Et donc j'estime que si rien n'est fait, si on ne prend pas la mesure de la situation, on peut malheureusement vivre disons, dans le chaud. Mais si nous tirons le son de ce qui s'est passé ailleurs et que nous nous préparons à impliquer tout le monde, il est bien possible que nous soyons, disons, ce pays qui, disons, fasse arrêt à cette tentative d'entrer et d'aller vers la mer.
Merci beaucoup. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Merci d'être avec nous pour la suite du grand rendez-vous sur Africa Radio. Les autorités béninoises sont-elles suffisamment préparées et armées pour éviter au pays de vivre le pire après deux attaques terroristes? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Julien Oussou, coordonnateur régional du WANEP. Il est à Banjul, en Gambie. Expédie Ologou, politologue béninois, spécialiste en sécurité et défense. Et Régis Oumou, analyste politique intervenant à l'École nationale supérieure des armées de Porto Novo au Bénin. Il est en studio avec nous. Alors, on a écouté tout à l'heure, dans la seconde partie, vos co-débatteurs parler de la nécessité de la mise en place de certaines mesures pour éviter au Bénin de vivre le pire. Quand on parle de mesures urgentes, cela signifie quoi concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement doit pouvoir faire?
Je pense que le gouvernement béninois et tous les observateurs s'accordent là-dessus. On a déjà eu en effet miroir un exemple palpable qui est celui du Mali, qui du jour au lendemain, des territoires comme Gao, Tombouctou ou Kidal sont tombés dans l'escarcelle des djihadistes pour la même raison que l'État était démissionnaire. Les administrations publiques n'existaient pas. Quand on parle d'administration publique, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de commissariat. Et l'idée, effectivement, qu'au Bénin, effectivement, et pas qu'au Bénin, mais puisque nous sommes sur le Bénin, effectivement, que cet exemple puisse nous servir, pour moi, paraît une chose utile. Je pense qu'en termes en termes de piste, effectivement, il faut traiter les vulnérabilités à la base. Et la première vulnérabilité qui, moi, de mon point de vue, bien sûr, elle est sécuritaire, parce qu'effectivement, l'entrée, l'immixtion donc, de ces terroristes par le Bénin vient bien sûr à partir donc, des parcs naturels, des parcs forestiers.
Dans l'urgence du redéploiement de l'État.
Elle est d'abord sécurité militaire et le redéploiement de l'État. Il faut que l'État soit totalement, soit dans son intégralité, soit partout, administrativement, politiquement, militairement et socialement. Et après, bien sûr, il y a une question qui est très fondamentale. Quand on doit traiter les vulnérabilités, elles sont d'abord socio-économiques. Le fait qu'il y ait justement, et il se le dit de plus en plus, qu'il y ait des prêcheurs de mauvaise foi qui viennent tenir des discours dissidents, et qui justement apporte du grain à moudre pour des populations ou pour des groupes communautaires qui, à un moment ou à un autre, sont dans la désolation du fait de l'absence de l'État. Et nous exhortons à une chose suivante, c'est que les vulnérabilités aussi doivent être traitées socialement et économiquement. Donc l'État aussi doit se réinvestir sur ces sujets. Au Bénin, on est très très loin de la situation qu'on a pu vivre dans les pays sahéliens, mais on a quand même une focale.
Certains s'inquiètent de ce que cette inquiétude, le Bénin, pays du Golfe de Guinée, risque exactement. De devenir demain le Sahel.
Elle est très légitime. Elle est très légitime. Je pense que le Sahélistan qu'on dépeint aujourd'hui, effectivement, a trouvé une nouvelle niche. Maintenant, ce sont les pays côtiers. Les pays côtiers, il faut le dire déjà, qui sont déjà en butte hein, contre la piraterie maritime, contre l'insécurité maritime. Donc, c'est déjà une question qui n'est pas encore résolument réglée. Et donc, déjà, aussi dans ces pays, sur ces côtes, il y a déjà un gros risque d'insécurité. Et voilà que maintenant, au nord, ça se passe. Donc, je pense en réalité, la question donc, du traitement social et économique se pose. Il faut que chaque citoyen au Bénin, qu'il soit au nord, à l'est ou à l'ouest, se sente totalement intégralement béninois. Mais pour se le sentir, il faut justement que l'État revienne partout. Et être partout, c'est intégrer tous les services publics tels qu'il faut. Et je pense qu'effectivement, le Bénin a en main des pistes et des voies de solution.
Merci. Et vous, M. Oussou, prendre la mesure de la situation signifie quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le Bénin ne puisse pas vivre d'autres attaques terroristes?
Je pense que après ce qu'a dit Régis, qui est vraiment le redéploiement et la présence, parce que nous connaissons nos frontières poreuses, il y a peut-être le moyen de voir comment on renforce, disons, les ressorts et les initiatives que nous avons eues sur le terrain et qui ont permis, et il faut l'avouer, de retarder ou d'avoir la situation que nous avons aujourd'hui, des initiatives comme celle de l'ABJF, qui a vraiment investi sur les questions de frontières, sur les questions de communautés dans les zones frontalières. Et il faut trouver le moyen de renforcer ce type d'intervention, ce type d'initiative autour de cette zone-là. Mais en le faisant, il faut trouver le moyen de rendre la question vraiment comme une question nationale sur laquelle nous pouvons débattre et sur laquelle nous pouvions donner des astuces, des éléments à nos communautés pour contribuer, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est maintenant encore le moment.
Parce qu'il est nécessaire, il est indispensable. On entend souvent les gouvernements du pays du Sahel interpeller les populations, leur demander de coopérer pour les renseignements, parce que certains de ces groupes terroristes là s'infiltrent dans la population, dont on a besoin justement de la coopération.
C'est cela. Et donc il faut trouver les moyens de les informer, il faut trouver les moyens de les mobiliser, il faut trouver les moyens, tout en assurant ou en les aidant à lutter contre leur vulnérabilité, à devenir plus résilients, il faut trouver les moyens de vraiment les mobiliser. Et cela appelle des comportements requis de la part des forces de défense et de sécurité. Cela appelle l'implication d'autres acteurs. Parce que cette mobilisation des communautés locales, bien entendu, les acteurs de sécurité ont un rôle à jouer, mais ils ne sont pas les seuls acteurs à jouer ce rôle-là. Et donc, il faut ouvrir en même temps, tirer le son des autres côtés et faire en sorte qu'on puisse renforcer les initiatives qui ont existé, qui ont permis vraiment de donner ce sentiment d'appartenance à une nation, à ces communautés-là. Mais il faut impliquer les acteurs civils pour pouvoir permettre de discuter de la question, de mobiliser les communautés, de les faire participer à l'alerte. Parce que c'est encore maintenant que l'alerte a sa valeur, parce que l'alerte, c'est peut-être pour prévenir, mais c'est après tout pour éviter l'escalade.
Merci beaucoup, M. Oussou. Il faut qu'on laisse aussi...
Et donc, en ce point de vue, il faut l'insister.
Il faut qu'on laisse aussi, M. Lougou, donner son mot de conclusion. Alors, pour l'instant, M. Lougou, on a entendu les autorités parler plus d'actions conjuguées des trois pays déjà touchés, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali. Elles ont aussi annoncé, ces autorités, que d'importantes ressources financières ont été mises à la disposition de l'armée et aussi pour recruter et former du personnel. Est-ce que pour vous, toutes ces mesures ajoutées à celles que viennent de donner les deux autres intervenants sont susceptibles d'aider le Bénin à éviter d'être le Mali, le Niger ou le Burkina de demain?
Oui, assurément que ces mesures vont aider substantiellement. Mais elles ne seront pas suffisantes. Au-delà de ce que les collègues ont dit, je pense qu'il y a quelques deux ou trois choses auxquelles les autorités doivent faire attention. C'est par exemple de désactiver les facteurs d'aggravation des extrémismes, des différentes formes d'extrémisme dans la société. Vous avez des situations politiques qui peuvent donner lieu à des discours légitimants, après de violence, etc. Par exemple, les élections à venir. Si les législatives qui viennent ne sont pas assez inclusives, l'extrémisme politique peut être là, la radicalisation politique peut être là. Vous voyez monter, par exemple, une forme d'extrémisme.
Et qui dit frustration, cela peut ouvrir d'avoir à la radicalisation et une envie de vengeance par tous les moyens.
C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça laisse des portes à toute possibilité. Et j'insiste sur la forme d'extrémisme religieux qu'il faut tenter aussi de désactiver. Récemment, on a vu qu'il y a une secte qui a pu causer la mort de forces de sécurité publique. Ce n'est pas rien, ce sont des poches qui, dans un contexte critique comme celui de l'émergence du phénomène terroriste chez nous, pourraient ouvrir des ports et des portes.
En deux mots, il vous reste à peu près une minute, s'il vous plaît. Cela dit, est-ce que les autorités, de votre point de vue, ont la volonté et sont préparées aujourd'hui, sont disposées à faire tout ce qui est possible pour éviter au Bénin de vivre le pire ?
À en croire le gouvernement dans son dernier conseil des ministres, oui. Mais avoir certains actes qui manquent, me semble-t-il, un peu d'ouverture, de disponibilité, on a des craintes. On a des craintes, on est un peu sceptique. Mais il faut croire que, avec tout ce qui s'est passé, avec la réalité maintenant que nous sommes en situation critique, il faut croire que les autorités prennent la mesure des choses et s'ouvrent aux différentes couches sociales, aux différents acteurs sociopolitiques et économiques du pays. Parce que la situation un peu de crise politique qui existe depuis n'est pas de nature à favoriser une résolution tout à fait judicieuse du problème terroriste à l'heure actuelle. Donc,
merci.
Nécessité d'ouverture sociale, politique et économique, pour ensemble réussir à faire face au phénomène. Parce qu'il ne connaît ni opposants, ni mouvanciers, ni proches du pouvoir ou non. Le phénomène terroriste ne discrimine pas entre ces cibles.
Merci beaucoup, Expedi Olugu, politologue et spécialiste en sécurité et défense. Vous étiez en ligne avec nous de Cotonou, au Bénin. Merci à Julien Oussou, coordonnateur régional du WANEP, c'est le West African Network for Peace Building, pour la consolidation de la paix, en ligne de Banjul en Gambie. En studio avec nous, Régis Oumpé, analyste politique, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Vous êtes également intervenant à l'École nationale supérieure des armées de Porto Novo au Bénin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rediffusion de cette émission à 23h heure de Paris et à Cotonou, 22h temps universel et à Abidjan. Bonsoir.